Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Marion Cazanov.
Bienvenue dans Dimanche Politique. On commente l'actualité politique de la semaine en France, marquée notamment par le premier conseil des ministres de François Bayrou, nommé à Matignon il y a quelques semaines. Un nouveau gouvernement qui doit sortir de l'instabilité politique. Avec aussi toujours la situation à Mayotte, dévastée par le cyclone Chido. Marine Le Pen du Rassemblement National, parti d'extrême droite, est arrivée sur l'île tout à l'heure. Bonsoir Michel Taube.
Bonsoir madame.
Fondateur du site Opinion Internationale, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Justement Michel Taube, sur ce déplacement à Mayotte de Marine Le Pen, elle s'y rend une semaine environ après le Premier ministre François Bayrou. On écoute ses premiers mots en arrivant sur l'archipel.
La souffrance des Mahorais suffit à mettre la pression sur le gouvernement. Je n'ai pas besoin de mettre une pression supplémentaire. En revanche, j'ai entendu des promesses. Moi, je considère que les promesses qui ont été faites aux Mahorais qui sont dans une souffrance folle ne doivent pas être oubliées. Voilà. Et donc, si c'est nécessaire, évidemment qu'on sera présent pour rappeler au gouvernement les promesses qui ont pu être faites. Il va y avoir de toute façon un projet de loi qui va arriver, donc on va l'amender, bien entendu.
Alors quand même, Marine Le Pen, Michel Taube ne fait pas partie du gouvernement, elle ne peut pas prendre de décision sur la situation à Mayotte, donc ça sert à quoi en fait qu'elle s'y rende ?
C'est d'asseoir sa stature présidentielle. Déjà le 31 décembre, pour les vœux du président de la République, elle avait publié sur Internet des vœux très présidentiels dans un lieu qui s'apparentait, qui faisait très fortement penser à l'Élysée. Et là, effectivement, quelques jours après la visite d'abord d'Emmanuel Macron, puis de François Bayrou et de plusieurs ministres, elle va à Mayotte et à quelques jours du dépôt d'un premier projet de loi, parce qu'il va y en avoir deux sur Mayotte. Donc elle occupe le terrain et elle veut, comme à son habitude, essayer de montrer qu'elle est la leader parmi les opposants à la ligne d'Emmanuel Macron.
Et elle y va aussi en terrain conquis, si on peut dire, parce que Mayotte, elle a obtenu au second tour de la dernière présidentielle 59% des voix face à Emmanuel Macron.
Absolument, et ce n'est pas que Mayotte, c'est dans les Outre-mer. Mmh. Elle a fait des percées très importantes au niveau électoral dans la plupart des Outre-mer. Je vais vous dire, les oppositions, que ce soit le Rassemblement National ou le Nouveau Front Populaire, ou en tout cas Jean-Luc Mélenchon, ont très très largement percé dans les Outre-mer depuis maintenant plusieurs années et sont effectivement des terres de conquête, des oppositions. On vit en fait dans les Outre-mer de façon beaucoup plus exacerbée les tensions politiques que l'on connaît en métropole et qui, encore une fois, dans les Outre-mer et plus particulièrement à Mayotte, sont totalement décuplées et ont permis effectivement aux oppositions de très largement gagner les élections, que ce soit législatives, aux européennes, à la présidentielle, comme vous le rappeliez. Et ça, c'est une donnée politique fondamentale sur laquelle Marine Le Pen surfe, j'ai envie de dire, aisément en allant à Mayotte.
Et qu'est-ce qui se joue précisément politiquement pour elle? Sur quel thème, justement, est-ce qu'elle elle appuie en allant à Mayotte, en se servant de cet exemple-là de cet archipel?
Alors, c'est évidemment sa conception du traitement de la question migratoire, parce qu'à Mayotte, les Mahorais vivent de façon totalement décuplée un problème de déséquilibre démographique, c'est clair. La moitié de la population qui vit à Mayotte est étrangère et parmi celles-là, près de la moitié, ce sont des migrants illégaux. Donc effectivement, pour elle, j'ai envie de dire, c'est du pain béni dans la doctrine qu'elle aime à développer. Après, très concrètement, tout le monde sait, et je pense qu'il faut le dire avec force, c'est que dans le contexte de blocage politique dans lequel vit notre pays maintenant depuis plusieurs mois, beaucoup des mesures que Marine Le Pen ne va pas manquer de demander demain dans sa visite à Mayotte, ou que les ministres ont demandé dans la tribune qu'ils ont publiée dans le Figaro aujourd'hui même, Bruno Retailleau, Monsieur Le Cornu, le ministre de la Défense, Emmanuel Valls, appellent des mesures législatives, des changements de la loi pour pouvoir mieux maîtriser les flux migratoires. Et très honnêtement, je pense que ça va être très, très difficile de les voir adopter dans une période de si grande instabilité politique. Donc, on parle beaucoup. Marine Le Pen parle beaucoup. Le gouvernement parle beaucoup. Mais la réalité, c'est que les faits ne bougent pas énormément, eux.
Alors, sur la question migratoire, justement, François-Xavier Bellamy, député européen, vice-président Les Républicains, était l'invité de François dans Dimanche Politique. Voici son avis sur la situation à Mayotte.
Tout est lié à la question migratoire. Quand je vous dis qu'il y a un manque d'eau, mais comment est-ce que ce ne serait pas possible quand vous avez à Mayotte... Quand même, regardons les faits. dans les années 2000, il y avait 150 000 habitants à Mayotte. Aujourd'hui, la statistique officielle dit qu'il y en a 320 000, probablement beaucoup plus. Mais comment est-ce que vous voulez que les infrastructures suivent ? Évidemment que les pénuries sont la conséquence matérielle, inéluctable,
alors, très clairement,
de cette situation de crise migratoire.
Que vous estimez, par exemple, que la limitation, voire la suppression du droit du sol à Mayotte doit être dans la loi immigration qu'envisage et que promet Bruno Retailleau ?
Mais bien sûr, mais c'est une urgence. Mayotte, c'est la France. Et Mayotte, c'est l'Europe. Et tous les problèmes, toutes les crises que traverse Mayotte sont aussi les crises que traverse la France. Sur une île, sur un archipel comme Mayotte, on voit en condensé tout ce qui arrive au pays.
Voilà, François-Xavier Bellamy sur France 3. Vous voulez rebondir
Oui, est-ce qu'il vient... Il y a deux projets de loi qui vont être présentés. Il y en a un premier dans les jours qui viennent. D'ailleurs, l'exécutif a déjà du retard sur le calendrier qu'il avait initialement annoncé. Mmh. C'est un projet de loi pour gérer l'urgence sanitaire, humanitaire, sociale, de toute urgence. Mais il y a un deuxième projet de loi qui doit arriver quelques semaines ou quelques mois plus tard et qui, là, va peut-être poser la question effectivement d'un changement de la loi en matière de gestion des flux migratoires pour rendre plus difficile l'accès soit à la nationalité française. Certains veulent effectivement revenir sur le droit du sol. Je note au passage que le nouveau ministre des Outre-mer, ministre d'État Manuel Valls, y était opposé. Mais la réalité, j'insiste, parce qu'il ne faut pas mentir à nos concitoyens, c'est que dans un contexte de division aussi importante de l'Assemblée nationale, je ne vois pas comment demain il pourrait y avoir une loi qui modifie considérablement les données législatives concernant que ce soit Mayotte ou la gestion des flux migratoires. Donc tout ça, ce sont des paroles. Mmh. C'est un débat qui est peut-être demandé notamment par les Mahorais qui effectivement se sentent en grande fragilité par rapport à cette pression migratoire. Mais moi, je crois beaucoup plus à des négociations, à des discussions très serrées avec nos partenaires. La France fait partie de la Commission de l'Océan Indien dans laquelle il y a les Comores, mais il y a aussi Madagascar, qui n'est pas loin de Mayotte. Moi, je crois beaucoup plus à des négociations certes fermes, certes peut-être difficiles pour gérer ces flux migratoires, que de faire croire qu'on va changer la loi, alors qu'à l'Assemblée nationale, les conditions politiques ne sont pas réunies pour un tel consensus. Je vois mal la Macronie s'entendre avec le Rassemblement national sur une réforme de la loi sur l'immigration, par exemple, en ces temps d'instabilité politique. Donc tout cela, à mon avis, c'est beaucoup de paroles. La réalité, c'est que ce soit les bidonvilles dont on n'a pas eu le temps de parler ou la gestion des flux migratoires, depuis la catastrophe qui a secoué et balayé Mayotte, la réalité, c'est qu'on reste dans la même situation dans laquelle était Mayotte auparavant.
Oui, je voulais juste préciser, on évoquait donc Bruno Retailleau et cette tribune. Donc, trois ministres, dont Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, ont plaidé pour des mesures de fermeté concernant l'immigration illégale à Mayotte. Et donc pour vous,
oui, mais des mesures qui appellent une réforme législative, ouais, dont je pense qu'il sera difficile de trouver tout simplement une majorité assez stable pour pouvoir les voter. Après, je me trompe peut-être, mais encore une fois, je pense qu'au-delà de gérer l'urgence et de mettre le paquet pour pouvoir rebâtir rapidement Mayotte d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue éducatif, mais je crois qu'il sera difficile d'aller beaucoup plus loin. Après, peut-être qu'un consensus se dégagera, mais ça, c'est loin d'être gagné.
Alors, autre sujet politique, Michel Taube, qui fait la une depuis des semaines maintenant, c'est l'incertitude, l'instabilité politique. Le nouveau gouvernement de François Bayrou va tenter d'inverser la tendance. Le nouveau Premier ministre et son équipe ont organisé leur premier Conseil des ministres mercredi. Emmanuel Macron leur a réclamé de l'audace. Quelle est la priorité aujourd'hui de ce gouvernement ?
Alors, pour ma part, je ne vois qu'une seule priorité. C'est de voter un budget pour la nation. Parce que pour le moment, une loi spéciale a reconduit en fait le budget de la nation, le budget de l'année 2024 pour 2025, avec des conséquences financières très lourdes pour beaucoup de catégories de la population. Donc l'urgence absolue, c'est de voter un budget.
Et on rappelle que c'est ce budget qui a précipité la chute du gouvernement Barnier, donc sous tension, enfin un vote, un budget, un thème, pardon, un sujet sous tension.
Évidemment sous tension, et sur lequel je pense très honnêtement que les raisons qui ont amené à la chute du gouvernement Barnier sur la question du budget, c'était le budget d'ailleurs de la sécurité sociale qui a fait tomber Michel Barnier, on va les retrouver dans quelques semaines. Parce que la réalité, c'est que François Bayrou, alors même qu'il a tenté ou fait semblant de tenter d'élargir les assises de son gouvernement, rien n'a à peu près changé entre le gouvernement Barnier et le gouvernement Bayrou.
Ils ne vont pas tirer les leçons de cet échec.
Mais comment peuvent-ils les tirer ? Est-ce que c'est en promettant ou en ouvrant une discussion sur la réforme des retraites ? comme François Bayrou l'a plus ou moins laissé entendre. Est-ce que c'est en réduisant très fortement les dépenses publiques et donc le budget de l'État pour avoir à moins augmenter les recettes et donc les impôts contre les Français, ce vers quoi Michel Barnier n'était pas allé, il y a une certaine marge de manœuvre, mais elles ne sont pas très importantes. Non, moi, il y a une chose sur laquelle je me permettrais d'insister. C'est que la grande différence que je vois entre le gouvernement Barnier et le gouvernement Bayrou, c'est que François Bayrou a nommé au ministère de la Justice Gérald Darmanin et qu'on a, pour la première fois depuis longtemps, en tout cas depuis les années Macron, un gouvernement où la justice et la police sont tenus par des ministres qui sont, on va dire, très forts sur le régalien. Et je pense que ça ne va pas plaire à une personne qui s'appelle Marine Le Pen. Parce que je pense que ce discours régalien que l'on entend d'ailleurs depuis que Bruno Retailleau, déjà depuis quelques semaines, et Gérald Darmanin est de retour au gouvernement, vont très fort sur le discours régalien sécuritaire. Et je pense, si on reprend un peu de distance, depuis 20 ou 30 ans, le Front National puis le Rassemblement National ont gagné d'année en année en termes électoraux. La seule fois où le Front National a reculé, c'est que lorsque Nicolas Sarkozy s'est présenté en 2007 à l'élection présidentielle. Là, le Front National a reculé parce qu'à l'époque, vous aviez un candidat, ministre de l'Intérieur sortant, qui avait un discours très fort sur le plan régalien. Donc moi, je suis intimement convaincu que le duo Retailleau-Darmanin commence déjà à faire de l'ombre à Marine Le Pen. On le voit d'ailleurs, elle arrive à Mayotte et voilà que vous avez des ministres qui sortent une tribune qui, sur le régalien, correspond à peu près à ce que demande Marine Le Pen. Et donc, je pense que ce duo très fort en termes de communication politique, on peut ne pas être d'accord avec leurs propositions, mais ils occupent le terrain, va faire de l'ombre à Marine Le Pen. Et que ce sera peut-être une raison de plus pour elle, outre la discussion sur le budget, de hâter la chute du gouvernement Bayrou. La réalité, c'est que le périmètre d'action et la marge de manœuvre du gouvernement de Bayrou est à peu près la même, sinon même un peu plus réduite, parce qu'il a fait monter des, on va dire, des grosses pointures de la vie politique dans son gouvernement que ne l'avait Michel Barnier. Et bref, le gouvernement Bayrou est toujours en sursis, comme l'était celui de Michel Barnier, et la probabilité d'une chute assez rapide me paraît quand même une hypothèse assez probable.
Mais donc c'est un bon calcul de François Bayrou, ce duo Retailleau-Darmanin.
Moi, je pense que c'est un bon calcul par rapport aux attentes de l'opinion publique, parce que toutes les études d'opinion montrent, qualitatives ou quantitatives, que c'est ce que demandent les Français. Mais encore une fois, les arbitres ou l'arbitre des élégances dans la vie politique française depuis le mois de juillet, c'est Marine Le Pen. On a bien vu que c'est elle, le jour où elle a décidé de voter une motion de censure déposée par les Insoumis, le gouvernement Barnier est tombé. Et donc, cette donne n'a pas changé. Elle reste l'arbitre des élégances. Et on va le voir très vite dans les semaines qui viennent. Surtout si François Bayrou arrive, j'ai envie de dire, à construire une offre politique crédible, peut-être plus que Michel Barnier, ce qui, encore une fois, fragiliserait les oppositions.
Alors, autre sujet, après la censure du gouvernement Barnier, les appels à la démission du président se sont multipliés, venant de plusieurs partis d'opposition, mais aussi de certains Français. 61% des Français sont pour une démission d'Emmanuel Macron, selon un sondage Odoxa Le Figaro publié vendredi. L'ancien président et député du Nouveau Front Populaire, François Hollande, s'est dit aujourd'hui contre une démission et contre de nouvelles législatives. C'est dans les colonnes de Ouest France. Pour lui, une démission provoquerait une crise institutionnelle majeure. Et pour une autre députée NFP, Sandrine Rousseau des Écologistes, une démission d'Emmanuel Macron, c'est pourtant inéluctable.
Il est dans une telle obsession de ne pas avoir tort, de continuer sa politique. Il est dans un tel déni de la réalité politique qu'il se met tout seul dans la situation de devoir démissionner à un moment. Mais je vais vous dire, le moment où il devra démissionner, ce sera violent. Ce sera violent. C'est inéluctable.
C'est ce que dit François Hollande, qui siège à vos côtés au sein du Nouveau Front Populaire, qui estime qu'une démission du président de la République provoquerait, je cite, « une crise institutionnelle majeure ».
On y est déjà dans la crise institutionnelle. On est dans une crise de la Ve République.
Mais vous dites « ça sera violent », donc ça sera pire que maintenant.
Emmanuel Macron se met lui-même là-dedans et nous met lui-même là-dedans.
Sandrine Rousseau sur BFM TV, je vous voyais grimacer quand elle dit, Sandrine Rousseau, qu'on est déjà dans une crise institutionnelle majeure.
Ah non, là je suis tout à fait d'accord, on est dans une crise majeure. Vous savez, pour moi, Emmanuel Macron, il a déjà quelque part démissionné, c'était le 7 juin de l'année dernière, lorsqu'il a dissous l'Assemblée nationale. Il a lâché prise. Et d'ailleurs, il a perdu la main. Il n'est plus le maître des horloges depuis ce jour-là. Donc pour moi, déjà symboliquement et politiquement, il a perdu la main ce jour-là. Deuxième élément, Je pense que c'est vraiment ignorer la personnalité du président de la République que de penser qu'il accepterait de démissionner dans les mois qui viennent. Moi, je ne crois pas du tout que Emmanuel Macron voudra démissionner. Je crois même que le jour, s'il y a 2 millions de Français, place de la Concorde, à Paris, non loin du palais de l'Élysée, qui demandent sa démission, il se dira « moi j'ai raison contre 2 millions de personnes ». C'est sa psychologie, c'est sa manière d'être. Et je vais vous dire, il a quelque part déjà répondu à tous ceux qui lui demandent de démissionner. D'abord, il a déjà clairement dit qu'il ne voulait pas démissionner. Mais dans ses vœux du 31 décembre, il faut les écouter, de quoi il parle ? Il parle de 2050. Il dit « je vois, moi, l'avenir de la France à dans 25 ans ». Et donc, il nous sort une perspective à dans 25 ans, alors que des Français lui demandent de démissionner dans les semaines ou dans les mois qui viennent. De même, il a annoncé, c'est quand même une annonce très importante, il a annoncé qu'en 2025, il allait consulter les Français, probablement par référendum, avec l'article 11 de la Constitution. Donc on voit bien que le président de la République, quand bien même il est isolé, quand bien même il a perdu une très grande marge de manœuvre, est bien en mode combat et compte bien utiliser tous les outils que lui donne la Constitution et la Constitution de la Ve République lui en donne de très nombreux, pour pouvoir continuer à exister et, j'ai envie de dire, à passer au-dessus des oppositions, au-dessus de l'Assemblée nationale, qui est complètement bloquée et qui lui est de moins en moins favorable. Mais effectivement, je pense qu'il compte exister le plus longtemps possible. Et donc, je crois qu'il attendra vraiment le plus tard possible et s'il peut éviter de démissionner, telle est, selon moi, son intention. Donc, je le vois mal pour 2025. Moi, je vois plus un scénario d'un gouvernement Bayrou qui tient un ou deux mois de plus que celui de Michel Barnier, mais qui finira par tomber parce que ce sera la volonté des oppositions pour qu'elles existent elles-mêmes et qu'on arrivera à l'été avec une dissolution de l'Assemblée nationale et de nouveau des élections législatives dans l'espoir pour chacun qu'une majorité se dégage enfin et qu'on n'ait plus cette Assemblée introuvable et ingouvernable.
Vous évoquez les possibles référendums que Emmanuel Macron pourrait lancer. Est-ce qu'on pourrait imaginer un référendum sur la réforme des retraites très contestée ?
Tout est possible. En tous les cas, c'est dans le périmètre de l'article 11 de la Constitution, qui est un périmètre assez large et qui permet de consulter les Français, notamment sur des questions d'organisation économique de la société.
Parce que le camp présidentiel a l'air quand même assez fermé pour ne veut pas revenir là-dessus. Donc l'ouvrir...
C'est pour ça que moi, je crois plutôt à d'autres hypothèses de référendum sur l'organisation, par exemple, de la décentralisation ou sur des questions peut-être un petit peu plus neutres. Parce que le problème des retraites, c'est qu'on touche là à un des rares ADN de la Macronie. Emmanuel Macron a fait dès 2017 de la réforme des retraites l'alpha et l'oméga de sa politique, de sa gouvernance de la France. Et donc je le vois mal proposer d'accepter de reconnaître finalement sa défaite politique sur la question des retraites en convoquant un référendum sur cette question. Mais vous savez, il a certainement plein d'idées dans la besace et ces consultations qu'il a annoncées, elles peuvent porter sur plein d'autres sujets.
Il nous reste une minute, Michel Taube. On a vu un peu les thèmes qui allaient occuper le gouvernement pour les mois à venir. Pour vous, quels sont les thèmes qui doivent devenir une priorité, en quelque sorte, votre vœu politique pour 2025 ?
Finalement, initialement, je voulais souhaiter que nos chers politiques s'occupent un peu plus des Français que de la vie politique elle-même. Parce que, par exemple, très concrètement, la dissolution du 7 juin dernier a coûté très cher à la France. Par exemple, les agriculteurs, dont on entend leur colère revenir, attendaient une grande loi qui reconnaisse le caractère d'intérêt général prioritaire de l'agriculture. Ils n'ont pas eu cette loi à cause de la dissolution. Mais permettez-moi de faire un vœu un peu plus précis. Elon Musk, dont on a entendu ces dernières semaines, qu'il s'est immiscé dans la vie politique allemande en appelant à soutenir
la
chef de l'extrême droite en Allemagne, où il y a des élections législatives le mois prochain. En Angleterre également, où il s'est immiscé en soutenant un autre parti. Le vœu, ce serait qu'Elon Musk ne s'occupe pas trop tôt de la vie politique française, parce qu'il a une véritable capacité d'influence et de nuisance pour certains, et on peut le penser à bien des égards. Voilà le vœu que je me permettrai de formuler pour 2025.
Merci.
Et très bonne année à tous les auditeurs de RFI.
Et bonne année à vous également. Merci Michel Taube, fondateur du site Opinion International. Dans quelques secondes sur RFI, c'est le retour de l'actualité africaine.